télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. J'suis heureux. Une femme et deux fils qui n'obéissent guère. À Château, une résidence secondaire. Le barbecue l'été, le feu de bois l'hiver. Et pendant le mois d'août, je me dors à la mer. J'suis heureux. Je sais choisir mon déodorant corporel, ma crème, mon tonique au parfum personnel. Je comprends mieux ma femme, je me rapproche d'elle. Je sais danser le jerk, j'ai un slip rassurel. J'suis heureux. Ma femme sort sans moi quelquefois, c'est son droit. Elle a ses connaissances, ça ne me regarde pas. Je vois tous les mardis une fille du nom d'Olga. Elle a la bouche grande et ça compte pour moi. J'suis heureux. Je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut évoluer, c'est la loi de la vie. Je ne dis pas cela parce que je suis nanti. D'ailleurs, tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit. J'suis heureux. Si j'ai peur du cancer, j'ai pas peur des Chinois. J'ai du cœur, j'ai donné 10 francs pour le Biafra. J'ai besoin d'érotisme, j'aime Barbarella. Et de Funès et Dracula quand je les vois. J'suis heureux. Je rêve chaque nuit et des rêves barbares. Je suis toujours pirate ou cosaque ou tartare. Égorgeur ou violeur, incendiaire ou pillard. Et quand je me réveille au matin, c'est bizarre. J'suis heureux. Je ne perds pas mes cheveux, je ne perds pas mes réflexes. Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de complexe. Je suis bien dans mon âge, je suis bien dans mon sexe. Aucune raison d'être angoissé ni perplexe. Je suis heureux. J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi de 9h30 à 10h30. ou presque chaque mercredi. Vous pouvez nous écrire aussi, c'est vrai, on oublie souvent de le rappeler, donc l'émission L'Entonnoir à la librairie du Monde Libertaire, ou librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris, donc 145 rue Amelot, 75011 Paris. Et on peut aussi nous appeler pendant les plages musicales au 01 43 71 89 40. Et pour soutenir la radio, on peut aussi donc aller sur le site radio-libertaire.org ou .net, je ne sais plus. Et c'est en remplissant le bon de souscription que l'on peut faire un don régulier pour soutenir la radio. Ensuite, vous pouvez aussi découvrir les podcasts de nos émissions sur ce même site, ou bien aussi sur anarchiste.info. Et donc, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, on va faire un retour sur deux événements qui se sont déroulés cette semaine. Alors, d'abord, on va parler du... Ah, c'est... oui. Voilà. Le colloque Contrôler la psychiatrie qui s'est déroulé le 9 et 10 avril 2024 à la faculté de droit et sciences politiques à Nantes. Et pour venir nous en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Natacha Guillet. Bonjour Natacha.
Bonjour Denis.
Tu t'es rendu à ce colloque et tu es même intervenu avec un texte, enfin un slam. Non, c'est pas tout à fait un slam. C'est une diction d'un texte qui s'intitule « Qui contrôle qui quoi qu'il nous en coûte ».
C'est ça, ouais.
Le CRPA était aussi présent à ce colloque, le Cercle de réflexion et de proposition sur la psychiatrie. Et deuxième événement dont nous allons parler, donc c'est déroulé. J'ai pas eu beaucoup le temps de me préparer, mais donc il y a quelques hésitations. Voilà, la journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques qui s'est déroulée à l'AIRI à Montreuil le 13 avril, le samedi 13 avril. Donc là, il s'agissait de témoignages, surtout de témoignages qui racontaient comment les personnes ont subi des violences policières et psychiatriques, et parfois les deux à la fois. Voilà donc pour le sommaire de l'émission. Alors, on peut commencer par je vais commencer par dire qui est intervenu dans cette journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques. Alors, il y a eu des intervenants. Il y a eu Awa Gay, qui est la sœur de Babacar Gay, qui a été assassiné, on peut le dire, par la police de 5 balles dans une cage d'escalier en 2015, dans la nuit du 2 et 3 décembre, au 3 décembre 2015. Et donc, c'est Awa, donc sa sœur, qui est venue témoigner pour évoquer cette, enfin rappeler cette, ce combat qu'elle a mené pendant des années et qu'elle continue à mener pour faire valoir la vérité et que la justice soit enfin faite, ce qui n'est pas le cas, sur la mort de son frère Babacar. Alors, en effet, elle expliquait qu'elle avait dû changer d'avocat très souvent, que le fait qu'elle qu'elle ne sache pas tout à fait bien parler le français a été encore a rendu plus difficile son combat, mais elle n'a pas du tout lâché l'affaire et vraiment avec une volonté de faire, elle a affronté la justice, une justice qui ne voulait pas admettre évidemment la responsabilité de la police dans la mort de Babacar et qui au contraire lui imputait une agression vers les policiers, ce qui n'était pas le cas. Alors, pourquoi ici, en psychiatrie, enfin dans une émission consacrée à la psychiatrie, on parle de cette histoire-là? C'est parce que Hawa Gay, à un moment donné, a eu cette proposition, enfin, et même elle a commencé à un moment à prendre un traitement, d'aller en psychiatrie, d'être hospitalisée. Alors, elle avait très bien vite compris que c'était pour, aussi pour la mettre à l'écart de cette lutte qu'elle menait et de la décourager en fait, en quelque sorte. Donc, elle a réagi en arrêtant rapidement son traitement et en refusant d'en suivre un. Voilà, alors ça c'était un premier reportage, un premier témoignage, pardon. Et il y a eu aussi d'autres intervenants. Il y a eu la sœur de... Alors je retrouve les notes. La sœur de Childéric, qui lui est mort à l'âge de 29 ans, qui lui aussi a été assassiné dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique, a été assassiné, mais dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique, alors qu'il se trouvait... Alors, le mot est assassiné, hein, est employé par ses proches comme une certitude. Alors qu'il se trouvait en unité fermée et qu'il était venu de son plein gré deux jours auparavant. Il n'a pas survécu à une nuit de mauvais traitements et de contentions physiques. Il est mort, attaché, s'étouffant dans son propre vomi, ne pouvant se libérer ni même se mettre sur le côté. Sa famille n'apprendra sa mort que deux jours plus tard. L'hôpital, par la voix de la police, leur dira qu'il serait arrivé agité et qu'ils auraient été dans l'obligation de le mettre en unité fermée à l'isolement. De là, il se serait montré agressif envers les soignants et il aurait nécessité d'être attaché pendant son sommeil. Donc, il en est mort et tout cela n'est que supposition car il n'y a aujourd'hui que la version de l'hôpital, Childéric n'étant plus là pour donner la sienne. Et revient l'éternelle question de sa mère, comment quelqu'un qui viendrait se faire interner de lui-même serait agressif ou non coopératif envers les soignants? Et puis en plus, il avait cette envie, cette volonté de réussir à vivre avec cette maladie et surtout de s'en sortir. Le jour où il est parti à l'hôpital, il était heureux et confiant. Et voilà, donc un traitement lourd qui lui a fait prendre beaucoup de poids et qui a développé d'autres pathologies chez lui. Voilà. Alors, il y a un autre témoignage aussi, c'était celui de Patricia Piazza, la mère de Charlotte Piazza. Charlotte Piazza qui était en unité fermée d'asile psychiatrique après trois ans d'enfermement et de maltraitance carcérale. Elle a d'abord fait de la prison, et puis elle n'a pas, disons, comment dire, la prison a créé un traumatisme tel qu'elle n'a pas pu, elle a eu une espèce de, comment dire, une crise qui l'a conduite directement à l'hôpital psychiatrique. Alors, je donne les détails un peu de cette chronologie. D'après le témoignage donc de la mère de Charlotte, c'est elle qui a témoigné à cette journée. Charlotte a été incarcérée à Fleury-Mérogis le jour de ses 20 ans. Dès le départ, c'est complètement surréaliste. Quand on arrive en prison, plus rien n'est simple, tout est compliqué, c'est-à-dire que le quotidien devient un combat. Il faut qu'elle apprenne à faire sa place parmi les détenus, en plus de toutes les maltraitances qu'elle peut subir dès le départ. Il y a les matons, etc. Tout est une découverte, c'est comme un enfant qui doit apprendre à marcher. Et pour les frères et sœurs, et pour la famille, c'est pareil. On doit apprendre à vivre avec un enfant, une sœur en prison. Et aussi apprendre toutes les règles en même temps qu'elle. La vie bascule. Alors, on attend son droit de visite sans savoir pourquoi ça met aussi longtemps. C'est tout un parcours du combattant. Rien n'est simple. Pour écrire une lettre, il faut déjà qu'elle s'organise 3 semaines à l'avance pour avoir des enveloppes, qu'elle comprenne les jours de cantine, ce qui se cantine, et quand est-ce que ça arrive. Si elle est fatiguée, elle dort, loupe le truc et se retrouve sans rien. À Versailles, donc c'est la MAF, la maison d'arrêt des femmes de Versailles, elles étaient 3 en cellule, il y en avait 2 qui dormaient par terre, Charlotte avait la gale, il a fallu que les co-détenus hurlent qu'elle allait leur filer la gale. Même si les poux, si tu en as, c'est fini, tu restes avec tes poux parce que le temps de cantiner du papier pour pouvoir écrire. Donc voilà, c'est les conditions de la détention. Et difficile aussi la communication téléphonique. Et alors en dehors, voilà. Alors donc elle a fait pas mal de mitards aussi. Elle a eu pas mal de problèmes, notamment après une permission de détenu encadré. C'est trop d'émotions. Donc à un moment, elle a pété les plombs, elle s'est engueulée avec une surveillante et ça a été directement comparution immédiate et retrait de ses remises de peine. Elle a fait une grève de la faim, le mitard, ça l'a détruite, et parce que c'est pas humain. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour supporter ça. Voilà. Et elle est tombée malade. Alors elle a eu 2 transferts. Le transfert, c'est quand on enlève la détenue et la famille ne sait plus où est son enfant. Donc il n'y a plus de communication possible. Et puis elle est sortie. Alors à la sortie, alors elle raconte sa mère, on est allé au restaurant, on est allé manger des choses qui lui faisaient plaisir, burgers, frites et tout ça. Et puis de retour à la maison pour reprendre ses marques, elle avait plein de rêves en tête, quand même, il y a eu le confinement. Après, elle s'est rendue compte que c'était pas si facile dehors. Avec la façon dont elle avait été brisée, elle ne pouvait plus aller vers les gens dehors. Elle s'est un peu renfermée sur elle-même. Elle a été chercher des relations dans la rue. Peu à peu, elle s'est imposée des conditions de vie très dures. Elle revenait malgré tout à la maison, mais elle s'imposait des choses terribles. Et son psychisme a lâché peu à peu. Ce qui avait commencé en prison a décompensé complètement à l'extérieur. Elle a été victime d'une schizophrénie qui s'aggravait au fil des jours, des semaines et des mois. Elle n'était pas prise au sérieux par le psychiatre, ils l'ont mise sous traitement et on y retournait régulièrement pour qu'il l'adapte, mais c'était tout à fait insuffisant et elle a fait une crise. Elle entendait des voix, elle avait des hallucinations auditives et visuelles, elle a essayé de tuer quelqu'un dans la rue. À la suite de ça, elle a eu directement les menottes. Elle a été entendue par un psychiatre pour savoir si elle était responsable de ses actes. Elle a été jugée irresponsable, donc au lieu de la renvoyer en prison, on l'a enfermée à l'Eau Vive, qui est une institution psychiatrique dans le 13e arrondissement de Paris. C'est via le préfet de police, on n'a pas le choix. C'est comme une peine de prison, mais qui ne sera pas limitée dans le temps. Alors, c'est une deuxième descente aux enfers. L'Eau Vive est pire que la prison, Charlotte me l'a dit elle-même. Ses frères et sœurs et moi, on a pu constater qu'en effet, c'est un mouroir, quelque chose d'archaïque, où les personnes sont maltraitées. Alors on lui a, donc en médicament en retard, on lui a injecté du Cléplion, en fait, pour les personnes avec une schizophrénie qui sont en danger pour la société. Le protocole est de faire une injection en retard pour pouvoir les laisser sortir quand ils veulent. Et elle n'a pas du tout supporté. Le dosage trop fort. Donc, elle a pu sortir, revoir sa famille. Sa mère raconte, on est allé aux puces, elle était meurtrie, elle était percluse de douleur. Je lui disais, on y retourne demain et ils vont te soulager. Elle n'y a pas cru. On est rentré et Charlotte s'est jetée par la fenêtre de chez moi sous les yeux de sa petite sœur. On est descendu du 8e étage voir mon enfant mourir, la plus jeune voir sa sœur mourir. Par incompétence et par manque de prise en charge de la part de l'Eau Vive. Donc, une situation dramatique dont la mère de Charlotte, Patricia Piazza, a mis en scène une pièce de théâtre qui raconte cette histoire. Donc Charlotte, d'après l'histoire vraie de Charlotte Piazza. Et c'est au Théâtre du Nord-Ouest. Les prochaines dates, c'est 21 et 23 mai et 10 et 24 juin. Donc, voilà. Il y a eu d'autres interventions dans cette journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques. Il y a eu le collectif La Petite Voix. La Petite Voix est un collectif cherchant à visibiliser les vécus de personnes ayant été confrontées à l'enfermement psychiatrique, libre ou sous contrainte, court ou long, passé comme présent. Nous considérons, disent-ils, que nos paroles et vécus méritent d'être diffusées, que nos stratégies de survie doivent être partagées, qu'elles aient été efficaces ou non, pour se protéger des violences médicales. Donc La Petite Voix. Bon, on peut voir sur Instagram. L'idée est, dans un premier temps, le recueil de témoignages sur l'enfermement psychiatrique. Et puis, donc, pour recueillir les témoignages, on peut écrire à La Petite Voix, en un seul mot, @riseup.net, riseup.net. Ou par voie postale, collectif La Petite Voix, 241 rue du Faubourg Saint-Martin, 241 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris. Il y a eu aussi une présentation d'un groupe Démocratie s'est présenté aussi. Le groupe Démocratie qu'on avait invité une fois à cette émission. Voilà en gros qu'est-ce qu'on a pu. Et il y avait aussi un témoignage de 13 qui a lu un extrait de son livre, Charge. Voilà. Alors, on peut enchaîner tout de suite peut-être avec, si tu veux,
avec le colloque contre la psychiatrie, pour l'interrogation.
C'est
mais,
ça.
C'est vrai que c'est des témoignages extrêmement difficiles et... peut-être pour faire le pont, c'est vrai qu'on a pas mal parlé justement de ce passage entre la prison et l'hôpital psychiatrique aussi au sein du colloque, puisque le droit en fait dans les deux cas reste une chose très complexe. Et il y a encore une fois, ce sont des huis clos, donc ce qui se passe ne permet pas forcément une justice. Enfin, surtout vu les personnes concernées en général, plus on est précaire, plus on est sujet à des maltraitances et à des abus de pouvoir.
Oui, donc le contrôle est nécessaire, le contrôle de cette de ces zones grises où peut prévaloir le non-droit parfois.
Mmh. Oui, c'est un peu aussi ce qu'a essayé de montrer ces rencontres à travers des organismes alternatifs ou en tout cas qui sont dans leur mission enclin à se déplacer vraiment dans les lieux pour voir ce qui se passe sur des durées parfois assez longues justement. Avec des équipes pluridisciplinaires qui connaissent ces milieux, qui ont travaillé aussi dedans, pour pouvoir bien cerner tout ce qui dysfonctionne ou ce qui sort vraiment de la loi.
Alors, un programme très dense de ce colloque. Alors, j'essaie de le retrouver. Oui, là, voilà, le voilà. Voilà. Donc, contrôler la psychiatrie à la faculté de droit et sciences politiques à Nantes. Il y a eu 2 jours avec des matinées, des après-midi, des intervenants. Bon, Éric Péchillon, je vois qui c'est, parce qu'on avait aussi diffusé une de ses conférences ici dans cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé des intervenants qui t'ont intéressé?
Bah c'était une approche de la psychiatrie qui était assez nouvelle pour moi en fait, parce que je l'ai jamais entrevue par le domaine du droit en fait.
Oui.
Alors peut-être parce que bon moi mes temps un peu d'hospitalisation d'internement, il y avait beaucoup moins de lois qui protégeaient aussi les personnes, donc la question se posait même pas. J'ai jamais rencontré d'avocat dans mon parcours psy parce qu'il n'y avait pas ces lois-là avant. Donc c'était assez nouveau. J'ai appris beaucoup de choses justement sur les règles qui ont été petit à petit quand même ajoutées à un cadre qui n'existait pas. Donc ça, c'était quand même un peu intéressant jusqu'à comprendre même en certains cas quel était mon statut à l'époque, ce que je ne savais pas forcément, mais que j'étais en soins libres en tant que mineure, ce qui m'a complètement éberluée, puisqu'on m'a fait quand même signer beaucoup de contrats, de contraintes, etc. Mais j'étais quand même en soins libres. Enfin, il y avait des choses comme ça assez étranges. Et après, ouais, on a parlé effectivement de publics particulièrement vulnérables, qui sont les enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont passées par la prison, les migrants. Enfin, donc ça aussi, c'est des choses dont on parle rarement, en fait. Donc ouais, c'était aussi des prises de parole très techniques sur vraiment des réglementations, notamment en ce qui est de l'isolement contention, la lourdeur aussi administrative qui décourage ou qui se déplace plutôt sur des contentions chimiques, justement parce que c'est trop lourd pour les équipes, et aussi de voir que certaines équipes faisaient sans et que c'était aussi possible, heureusement, de travailler sans ces approches barbares. En tout cas, de plein pouvoir aussi. Ouais, on a eu pas énormément, mais quelques interventions de soignants, vraiment psychiatres, infirmiers. Mais c'était vraiment pas la dominante de ces interventions. Et la dernière demi-journée, il y avait davantage des paroles de personnes concernées. Donc il y a eu la venue du GEM, le nouveau CAP, mon intervention, l'intervention du CRPA. J'ai lu aussi le texte du CRPA, donc là c'était plus les personnes concernées. Et il y en avait quelques-unes aussi dans le public, donc ils faisaient des interventions régulières, ça donnait aussi quelque chose de concret, quoi. D'avoir ces interruptions, interventions aussi, commentaires de quelques personnes concernées.
D'accord.
Et pas mal d'étudiants, évidemment, aussi dans le colloque.
Eh bien, on peut écouter un extrait de cette intervention que tu as faite.
À la toute fin, oui.
À la toute fin.
C'est ça, ça clôturait en quelque sorte les journées sous une forme plus performative, un peu décalée de tous les contenus qu'on avait eus.
D'accord, alors c'est... Ah non, là, je crois que...
Oui, c'est un enregistrement qu'a fait un ami qui est passé, Mathieu Tricot, à la fin du colloque justement.
D'accord. Alors, j'ai un logiciel qui a du mal à tenir. Alors, je change. Oui, donc c'est... ça s'appelle Qui contrôle qui quoi, qu'il nous en coûte.
Sur lingette des Color Stop.
Alors, comment ça marche? Oui, c'est ça. Bon, alors, non, ça a l'air de pas fonctionner, en fait. désolé, là, c'est...
Sur YouTube, ça marche pas.
Alors, YouTube, ah oui, j'aurais pu me faire sur YouTube, en fait. Bon, là, oui. Alors, voilà encore un blanc qui vous est offert par Radio Libertaire. C'est un peu...
En tout cas, on peut trouver le texte du CRPA sur le site du CRPA. On peut aussi trouver mon intervention sur mes blogs SNG et aussi sur le site du CRPA. Et oui. Alors, le colloque parle peut-être de faire des actes aussi de ces interventions.
Oui. Bien. Alors, non, rien à faire, c'est bon. La préparation n'a pas été assez assidue. Alors, oui, donc dans ce colloque, il y avait beaucoup d'intervenants, Mathieu Bellassène,
le CGLPL.
Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que, par rapport aux notes que tu as prises, qu'est-ce que tu peux... je ne sais pas si c'est dit facile pour toi de raconter un peu les thématiques, les débats, les questions Alors, effectivement, il y avait des thématiques comme la recherche d'alternatives à la contention, limiter le recours.
Il y avait une approche un peu historique au début, un peu justement d'où on est parti aussi, et à quel point, en fait, la psychiatrie était hors la loi. En fait, on n'avait pas adapté des lois spécifiques pour ce milieu-là, et c'était vraiment problématique, en fait. Mais donc, petit à petit, ça s'est fait, c'est ce qui était raconté un peu par les premières interventions de la journée. Depuis le premier jour, comment au fil du temps on s'est quand même posé les questions de placer des règles, des lois et des droits et aux personnes qui étaient hospitalisées sous contrainte le plus souvent. Après, il y avait aussi des instances qui se déplaçaient pour vérifier que tout ça a été appliqué correctement, oui. Et qui faisaient des rapports publics. Donc il y a aussi tout ce qu'on peut maintenant trouver en ligne sur les propres lieux qu'on a fréquentés. Il y a eu des rapports et on peut aussi savoir dans quelle mesure ils respectent ou pas des normes de bien-traitance. Et il y a eu toutes les modalités aussi de mise en place des soins sous contrainte, des programmes de soins, des passages de la prison à l'hôpital psychiatrique, des UMD. Donc comment aussi ces choses-là se passaient concrètement, à la demande de qui, avec quelle surveillance, quel tiers, etc. La question vraiment de l'isolement contention avec toutes les histoires de réglementation horaire, journalière, de rendre des comptes, etc. Donc ça, c'est extrêmement technique et souvent aussi un peu incohérent dans la façon dont ça se met en place. Et effectivement, les interventions notamment sur les publics mineurs, les majeurs protégés, les personnes détenues. Et à la fin, on a eu vraiment plus des témoignages donc, du GEM, les propositions d'alternatives aussi, donc le fait que des soignants aussi puissent se protéger pour pouvoir mieux protéger les patients. Donc ça, c'était un service très spécifique aussi à la Salpêtrière, avec des personnes qui ont des gros, gros troubles du comportement. Donc comment ils mettent en place aussi des équipements spécifiques, un environnement adapté aussi pour pouvoir mieux s'occuper des personnes, en fait.
D'accord.
L'hôpital contrôle mes appels téléphoniques, mes postal, mon linge sale, la quantité de vaisselle. L'hôpital contrôle mes entrées et sorties de chambre, les toilettes, l'institution, le nombre de marches que je monte et descends. L'hôpital contrôle si jamais je fume, si je bois, si je vomis, si je me drogue, si je dors.
Alors là, on écoute un extrait justement de cette intervention que tu as faite.
On l'a retrouvée.
L'hôpital fait fi de ma compréhension de ces pratiques et de mon diagnostic. L'hôpital honnit les effets secondaires des psychotropes, les plaintes, les strates informelles de discussion et d'humanité. L'hôpital ignore les gestes d'affection, d'attention, de solidarité dans ses murs. L'hôpital dédaigne ce qui m'anime dans la vie. La création artistique, la poésie, la fantaisie et l'humour qui m'habitent. L'hôpital néglige mon identité, mes droits, mes valeurs, mes relations sociales, ma capacité à me défendre et à développer mon esprit critique au quotidien et dans les institutions. L'hôpital tourne le dos à l'importance que je fasse des études, l'importance que je développe des compétences, des acuités de présence, un réseau de contre-attaque, l'importance que j'existe à côté de la maladie et indépendamment d'elle. Revenir à la ligne de mon corps visiblement beau. L'écorce d'herbe exquis d'entre cafard à ma homme. Jolie et lisse bout de femme sans grave autre procès. Il me manque les rames, aliéné la spirale. Contre mes frères d'ignorance m'appellent, retard d'existence, elle les devance dans larmes. En pratique, l'école buissonnière, maquée à l'hôpital, éclipsée du cours magistral, apathique, plie faire les poubelles. Arrivé à Paris, tu vomis matin, midi, soir et nuit. Mange comme étudiant obstiné au rendement. Dans mon quartier reconnu prompt à fréquenter les psys, les flics, les bennes et les pisseries. Mobilité humanitaire ou le prétexte caritatif. Je m'habitaille en boulangerie, les comestibles obsolètes déplacent en droite et gauche sur le dos. Les guillemets de quinoa, le coquin fermé jusqu'au grippin antique. La saveur rance d'aliments fermentés, le lait avarié, un brin piquant, blister, bonbon, le torse m'imprègne. Les commerçants s'engagent en partenaire jusqu'au personnel de l'école, méfiance, voire indigne d'un si copieux programme extrascolaire du reste non rémunéré. Je dépasse le rideau de la supérette, puis notre quotidienne entrevue de fermeture transmire en un vide plus animal, me déchire en l'os, l'arrêt du port. Corps éthique, sans petit dédié, marché noir, au squelette, en fond glauque, poussière d'arrière boutique. Mon corps profile la poubelle, le nid parasitaire dont j'ai ingurgité en liasse de bactéries halogènes. J'ai fugué de Saint-Jacques, Sainte-Anne. J'ai fugué de chez moi, de l'internat, la douane de l'hôpital. Bref, comme dans un ville pour rassasier ma faim ou fréquenter au vide sur les ponts de Mangin. Je demandais de la bouffe en pyjama 12 ans, le tube dissimulé en chevelure mesquine. Qu'accumulé à clé dans ma cellule psychose, je vais passer des mots et parlemente en troc. La poire de ton plateau contre un baiser captif, intranquille unité où j'ingurgite des rêves d'addicto. Le poids suce le sort de chantage, le poids suce le chantage balance ce qui se passe, les murs rapent de mes mots. Mon dossier éclectique sans pâte est en train de presque plus crûment que moi-même, me devance en masse comorbidité. Passant des couches d'étiquette de la peau de la fesse à l'édème, acro-syndrome et autres verlans moins gracieux à l'égout. La montre tatouée, presque en train d'aller gâcher les confettis de l'heure interne en HTT. Le temps n'existe plus, dans les portes condamnées abdiques, le travail accordé l'os d'un filet d'air. Dans mon cahier de l'ICN, l'abeille veille au cadenas des guerrières en cinquantaine sans fil originaire du CEF. Aussi, le président de Montulot gouvernement de bourse industrielle, passé 72 heures, l'aliment à demi-tiède. J'ai tout vomi après. Des lettres intoxiquées, indemnes de résineux, je vacille toujours dans ma lunette de 20 ans collue, dévalisant mes zestes insupportables. Par jour, et fois de mon transit, les commences de la vie en constipation chronique. SOS, médecin. Je crie au loup, en vain force avec cœur, en un médiocre ne m'affectant plus fat. L'hypothermie en classe, l'hypocalémie par cœur, l'hypocalme assigné à demeure, mon crâne à court de cheveux. Je bois à me dissoudre en sodium. Votre maladie est scellée à fleurs et à soif. Le temps file où j'accumule symptômes et nodules. L'ostéoporose m'attend à 20 ans, charmé avant ma mère. Et quand je danse, quand je me sers d'histoire, en marchant sur le dos, on ne peut me casser à deux, trois gîtes, à moi les plats. Ou bien tu les manges. Toilette est impraticable. L'immeuble entier m'a sert en nourriture érectée. Canalisation bouchée, inhale, descendre en ville, régurgité en poubelle, le bain luisant, les styros, tu te suicides au hall résidentiel. On trouvera dans les placards un panel exemplaire d'un cadet du régime tétard ou gravataire, bouillie et une aide assimilant plus d'une balai, une vieille ou autre cuisinée d'hôtel.
Oui, alors on parle toujours de du colloque. Du colloque programme contrôle psy, du contrôle psy, du contrôle sur la psychiatrie, sur les pratiques de psychiatrie. Et est-ce que dans ce colloque est apparu ce constat d'une certaine désinvolture quant au respect des patients ou du respect des droits des patients, cette désinvolture abusive, en fait.
J'ai eu l'impression que les intervenants la dénonçaient assez clairement, en fait, oui. en citant en fait les pratiques de la loi. Dans ce milieu bien particulier, il y avait tellement d'endroits de vide ou d'incohérence qu'effectivement, il y avait des abus terribles qu'ils mettaient carte sur table, quoi. C'était assez flagrant, même si on voyait qu'il y avait eu une progression au fil des années, quand même. Mais on était quand même dans pas mal d'endroits, dans des trucs sans contrôle possible, ou en tout cas, qui pouvaient aussi rendre fous les équipes qui ne comprenaient pas forcément les protocoles, ou qui ne pouvaient pas les respecter. Et puis, en tout cas, en tant que personne patiente, on peut absolument rien faire, en tout cas. Une fois qu'on rentre dans ce circuit... et qu'on est dans cette mécanique-là, on peut pas trop se défendre, quoi. Mais ça, on le sait.
Et quant à la situation des personnes psychiatrisées qui se retrouvent en fin de compte au plus bas étage de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire bien étant des personnes improductives. On leur fait quelque part le reproche, et peut-être que la considération que peuvent avoir les soignants par rapport aux personnes psychiatrisées, est-ce qu'elle n'est pas aussi teintée justement de cette infériorité du patient par rapport à une certaine supériorité du travailleur soignant?
Oui, ça, je pense que c'est même pas propre à la psychiatrie. Cette vision-là, elle est présente dans toute la société. En fait, cette idée du rebut social inutile, poids pour la société, coût pour la société, encombrement aussi, et puis qui est compliqué à gérer aussi pour les proches, les familles, en fait, qui reste une forme de fardeau ou de personne qui n'a pas de destin possible, normal, normatif, professionnel, comme c'est attendu. Oui, c'est clair que ça joue aussi dans les rapports relationnels entre patients et soignants.
On va écouter encore un peu de ton intervention.
Mais en fait, oui, je vais juste dire que cette intervention, alors, elle démarre par une listing, en fait, de toutes les mesures de contrôle qu'on subit en tant que patient, mais d'accord. Après, il y a un switch où je raconte aussi de quelle façon, en tout cas moi, mais je pense d'autres aussi, on a aussi, puisque c'était le sujet du colloque, un travail, enfin, on porte aussi un regard de contrôle sur la psychiatrie, et le fait que, justement, aussi, dans mon parcours, j'ai été amenée à faire de la pérédance, donc de revenir dans les institutions, oui. A été une forme aussi d'observation, avec du recul, de comment travaillaient les équipes, ce qui n'était pas possible avant, puisque ces statuts n'existaient pas. Donc je raconte aussi de quelle façon, sur le plan artistique, de détournement, etc., moi aussi je contrôle la psychiatrie à ma façon, et c'est une forme de résistance possible, en tout cas, qui moi m'a permis aussi d'en prendre de la distance, puis d'en faire tout un tas de détournements ou de développements aussi artistiques. Donc c'est un peu comme ça qu'évolue aussi le discours dans cet enregistrement.
Je relis mes feuilles de soins et réécris la réalité de ce que je fais la journée. Je réajuste ce que je mange. Je révise la façon dont le personnel médical me traite et ce qu'il peut raconter de mes journées et comportements à ma famille. Je rectifie mon poids, rétablis les quantités de nourriture et de flotte ingurgitées. Je retouche l'activité physique que j'ai faite et, ce jour-là, épalie aux marques que j'ai réellement effectuées dehors en errance furtive et tonique autour du lieu unique, alors considéré en fugitive. Je nuance ce que j'ai vraiment pris dans l'ordonnance de mes médicaments. Je réévalue le pointage soignant aux heures dites où il doit être présent. Je raccourcis la durée des entretiens comme ils se sont déroulés. Je ne signe aucun contrat, mais y apporte des notes et corrections. Ma vérité, si elle vient se friter aux barricades du contrôle coercitif unilatéral qui entoure l'hospitalisation et les soins sous contrainte, retrouve une voie. Afin de reprendre le contrôle sur ma vie, sur ma dignité, sur mon identité et mes valeurs éclatées par le corps soignant, je m'attache à doubler le contrôle et redoubler de rectitude par transparence. Je souhaite réinvestiguer pour réinvestir mes dossiers dans un état d'esprit d'urgence. L'inversion du pouvoir de contrôler s'effectue pour moi alors à travers des actes et des politiques partistiques, militants, subversifs et émancipatoires. Je corrige toutes ces conneries qu'on écrit sur moi et rentre dans une pochette qui porte mon numéro de chambre pour ensuite entamer la relecture de mon dossier patient. Je réécris ces documents qui parlent de moi à partir du récit de mes carnets intimes, du témoignage de mes proches, à partir de ma mémoire vive, même si éreintée, détruite par l'accablement et les médocs. Aussi, pour mieux me contenir, je m'auto-supervise. À travers le geste dessiné, à travers le flot des écritures jonchées pour être dites et criées, je reprends le contrôle de moi-même. D'une frappe à l'expression d'un acte créatif, je danse, siffle, manifeste, je me calme. Je reprends le contrôle. Parce que l'espace de l'art, poème, tolère sur ses rives la marge et l'étrangeté. Parce qu'à chaque itinérance en psychiatrie, ma perte de contrôle est inévitable. L'autocontention ne peut néanmoins étouffer complice la parole insoutenable des autres. S'il faut qu'elle s'échappe et se propage, alors je dénonce, je hurle, j'invective, interdite à caution, rigidement gentille, je proposerai qu'il vous en abjecte un autre vallée de traverse. On flirte avec le lancement d'alerte, le ressurgissement de l'alibi de la pérédance dans l'hôpital intime à tantôt reprendre les personnes qui alors deviennent mes collègues pour démontrer que tel exercice de pouvoir sur autrui n'a pas sa légitimité dans le bon soin porté à l'autre, pour tantôt me faire discrète et l'avantage spectatrice de l'exercice chronique de l'autorité. Pour tenir et pour des questions de survie éthique, je dessine ces scènes, je les écris, les propage ailleurs sur les ondes, je les convertis en licenciement positif, en démission, je les traduis dans les processus de la question systémique, je les approuve par tous les pans et supports possibles, je croise et délivre du récit aux chefs d'établissement, aux directions de recherche, aux syndicats et journalistes qui, hélas, dans l'entre-soi corporatiste lâche et blindé d'assurance, répondent aux dysfonctionnements par omission mutique. L'été, Paris déserté des obscénés chronométriques, l'air aux escapades touristiques de voyageurs à pied contrits, aux grades exploités morts, sinon partis en balade périphérique. L'aïeul flétrie, pièce dans sa piole, silence, radio, cœur, tectonique. Les rues tantographes adhérents aux tables licenciées en bas âge, en cadre partiel, lors d'accotement d'iseaux d'essais canulars. Sans quoi la relâche des asiles, capitale non pas zen, ovationnant l'hymne à libre vacation d'internet, quelque part en moins, au comptoir. Je lui passe, anonymement, quoique suspecte la place qui penche. Les phares toujours de la puissance la plus tordue, ne m'avare. M'éloigne de la porte de bagnolée, sans caisse, sans clé, en cloporte. La boussole, oubliée de mélodes, en serre d'hostile dizigote, yin, yang. J'effleure du reste du regard les douves qui séparent la place qui tente du reste du monde. L'été, les fous affluent, naviguant libre, l'arrière-cour où s'empilent des bracelets d'électronique, hackés, trompés contre une gamme de fortune pour asseoir son cri. Sa soupire au nid des ponts de Seine, la scène de pluie, fontaine de douche, croupie sous l'acélique du miel qui tâche, rembobine les rêves de néons trompeurs à l'aube d'une sélie sous l'ardoise des paroisses. m'envier peine et soupir à croquer. La galante promenade des palfreries attroupées rend grappe aux pieds d'édifices divans. L'or des fourmis d'ordinaire bûcheuses, la flamme au radeau, encore ma lèvre les gacérie d'être en dehors à la lie d'un ruisseau plus limpide que sûr, fronçant d'emberge du rudiment de la pléiade au silence des ornières. Je reprends le contrôle le jour où je diffuse en ligne mon dossier patient. Je reprends le contrôle lorsque l'université valide un mémoire de second cycle qui témoigne de l'itinérance psychiatrique qui est la mienne. Je reprends le contrôle en dessinant ce qui ne conservera sinon aucune trace et ne relève, a priori, pas d'une situation normale, puisque la normalité vous importe le temps. Mes carnets alimentaires sont bien plus précis que vos comptes rendus sur quelques soins. J'écoute vos anecdotes. La façon dont vous parlez de nous. Je consulte les rapports CGLPL des établissements pour comprendre que j'ai été soignée dans l'insalubrité, la maltraitance, le bafouement de mes droits et l'abus de pouvoir. Je contrôle mon éclairage inadapté, l'intensité sonore de l'unité, son degré de tension et d'hostilité, son taux de présence de poussière et de nuisibles, ses aliments périmés, le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité du personnel et des personnes soignées, le tri écologique des déchets. Je teste le niveau d'efficacité du maintien des personnes en souffrance dans vos structures fermées en multipliant les entrées et sorties sur le mode de la fugue. Je sors sans difficulté avec ma santé et chaussons. Je contrains vos services à renforcer leur système de contrôle en perturbant le système de contrôle en place. Je chiffre vos avantages en nature sur transparence.santé.go. Je quantifie la répartition hiérarchique des enveloppes financières entre équipes, unités, pôles, domaines d'usage. Je check les commentaires positifs et négatifs à votre rencontre sur Google et au sein des communautés patients. Je vérifie qui sont vos partenaires, vos mécènes et donateurs, vos collaborateurs, des sept qui financent vos activités et vos projets de recherche. Je jauge la façon dont le handicap est considéré et stigmatisé par la DRH. J'évalue votre honnêteté, votre authenticité, votre niveau de langage et de familiarité, votre transparence, vos lâchetés. Je mesure l'écart entre le discours dans l'équipe et celui à l'adresse des personnes en soins. J'évalue votre rapport intime à la maladie, au handicap, à la crainte de devenir patient ou même fou. Je vous rappelle à vos dires, à vos promesses, à vos engagements, à votre serment d'Hippocrate, à votre humanité, à vos valeurs soignantes, à votre éthique, à vos limites, à votre manque de temps. Je vous rappelle à votre vulnérabilité, à vos gestes automatisés, à vos prises de parole méprisantes, à vos réflexes, à vos niveaux d'exigence, de normalité, à vos critères diagnostiques, de tolérance, à votre humilité, à vos ignorances. Radar que je suis, qui franchit le ciel de l'hôpital en alerte écrevisse de détection de tout ce qui déconne et se perpétue sous couvert de l'accueil cadenassé des personnes à la ramasse.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération Anarchiste, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et dans cette émission, pas toujours bien contrôlée, justement, eh bien, nous avons évoqué le colloque Contrôler la psychiatrie qui a eu lieu le 9 et 10 avril 2024 à la faculté de droit et sciences politiques à Nantes, où il était question effectivement de contrôler le plus souvent juridiquement parlant la psychiatrie, mais aussi peut-être aussi un autre regard sur les personnes concernées, peut-être par une connaissance plus développée aussi de ce qu'est l'institution psychiatrique, de ce que sont les maladies, entre guillemets, de ce que, voilà, de tout un savoir peut-être qu'il y a aussi à acquérir autour de la psychiatrie pour permettre justement non seulement de résister, mais aussi de contrôler. Nous allons finir par des annonces. Tu as une annonce à faire ? peut-être.
Ouais, je voulais partager la parution d'un bouquin, qui n'est pas un bouquin sur la psychiatrie, hein, mais un milieu, on va dire, qui a du vécu, donc milieu du slam.
D'accord.
Qui est un des milieux qui m'a accueilli d'ailleurs dans les premiers temps où j'ai commencé à raconter un peu mon parcours. Il y a eu une parution par Le mot qui claque aux éditions des Xérographes lundi dernier. Donc on a fait une scène ouverte aux 11 bars à Paris pour la sortie du livre avec des vidéoprojections, des personnes qui ont slamé des textes issus ou pas du livre. Et donc c'était un moment assez chouette de rencontre, et donc ça retrace 16 ans de slam, donc avec tous les déplacements aussi de bar en bar qu'il y a pu avoir sur cette scène, avec la contribution de pas mal d'artistes, poètes, slameurs, slameuses.
Un livre donc qu'on peut trouver dans les...
Alors les Xérographes, ils ont un lieu de dépouvante dans le 18e arrondissement, et après je pense qu'il va aussi être... accessible ailleurs au fil du temps, mais là il vient juste de sortir. Il sera aussi au marché de la poésie. Il me semble qu'il sera aussi au Centre Barbara dans le cadre d'un événement bientôt. Mais on peut suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas pour être informé et venir aussi le lundi au Slam au 11 bars ou le mardi à Montreuil pour retrouver aussi cette bande de poètes.
D'accord. Alors j'ai une annonce aussi. Prochainement, il y aura une discussion autour du livre « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry et avec la participation de l'émission « L'Entonnoir ». Discussion donc autour du livre « Je ne serai plus psychiatre » le 21 avril à 16h à Publico, à la librairie Publico, 145 rue Hamelot. 7511 Paris, métro Robert Kampf, aux Filles du Calvaire. Alors, commentaire sur cet événement. Le minimum que puisse faire un psychiatre est de libérer le délire sous-jacent qui l'a attiré vers cette profession morbide de voyeur. D'abord interne en psychiatrie, après 1968 à Lyon, Gérard Hoff sera radié par le conseil de discipline. Il cofonde le groupe Information Asile, en 1972, mais aussi le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, en 71, Plastique, la centrale nucléaire en construction de Fessenheim, en 75. Inspiré par le groupe de patients révolutionnaires de Heidelberg, en Allemagne, le SPK, le Socialistische Patientenkollektiv, Gérard Hoff essaie de se situer, entre guillemets, entre le monde des soignants et le monde des soignés, tentative qui le mène à une remise en question de plus en plus radicale de l'institution psychiatrique. Loin de chercher une meilleure manière de soigner la folie, tout entre guillemets, il en vient, à travers sa pratique personnelle, à tenter de libérer le délire collectif contenu dans les murs de l'asile. La dimension du combat qui se joue entre les fous et les normaux, tout ça entre guillemets aussi, dépasse largement le problème de la maladie, entre guillemets. Donc dimanche 21 avril 2024, à partir de 16h, accueil dès 15h, à la librairie du Monde Libertaire, Publico, 145 rue Hamelot, Paris 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, entrée libre. Bien voilà. Merci Natacha d'être venue.
Merci à toi.
Et ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine avec de sources sûres la présence du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie avec André Bitton. Au revoir.
rentre avec toi dans l'arène. Toi t'es standard et lui est too much. Mais c'est pas à Geoffroy Guichard qu'il y a mon meilleur rush. J'ai déserté Jean Monnet en bateau ivre. J'ai suivi ton Mistral en bleu à la dérive. J'ai bu l'écume des jours à l'entrepôt. En vol de nuit annexe, de bistrot en bistrot. Mais c'est au petit théâtre qui tenait dans ma poche 44 rue Mulatière que je devins ton enfant. Pas la poche arrière, mais celle qui est à gauche. À l'intérieur de ma veste, celle qui se frotte au palpitant. Saint-Étienne, je t'aime. T'es plus qu'un soleil.